Chapitre 4. Knowl. Les dernières paroles de Camilla à Mandelbert à son départ de Clèves, les larmes qu'il avait aperçues dans ses yeux, mille réflexions avaient éteint ses ressentiments. La distinction de Camilla entre la sagesse et l'indulgence l'avait pénétré au vif. L'idée d'avoir été capable de sévérité envers cette jeune et douce créature, la fille de son tuteur, la compagne de sa jeunesse et sa première amie, le dégradait à ses propres yeux. Il était impatient de la suivre pour se justifier de ce qui avait pu la choquer et lui vouer l'amitié la plus désintéressée pour tout le reste de sa vie. Ce ne fut que par décence qu'il passa encore une semaine auprès du baronnet avant de partir pour Tunbridge. À son arrivée, il se rendit tout de suite aux chambres. Mais il n'y trouva que le nom de Camilla sur les listes et il apprit que Mrs. Albery et sa société avaient déjà quitté le bal. Charmé de leur attention à se retirer de bonne heure, il revint à l'hôtel sans autre projet que de lire jusqu'au moment de se coucher, se promettant de voir Camilla le lendemain. Peu de moments après, une voix qui frappa son oreille lui fit interrompre sa lecture. C'était celle de Camilla. Camilla, dans cet hôtel, après 11 heures. Il savait qu'elle n'y logeait point, puisqu'en consultant les listes, il avait vu que l'adresse de Mistress Albery était au Mont Plaisant. Il distingua aussi la voix de Mistress Albery, celle de Sir Sedley Clarendel, du général Kinsale, et, ce qui était pire que tout le reste, celle du major. Peut-être quelque dame, quelque intime amie de Mistress Albery était-elle arrivée ce jour même et l'avait déterminée à passer la soirée avec elle. Il appelle son domestique, le charge de savoir qui occupe l'appartement voisin, et il apprend que c'est Sir Sedley Clarendel. Visiter dans un hôtel un jeune homme riche et brillant, sous les auspices d'une dame qui n'a pas encore passé son printemps, qui est élégante, coquette, séduisante et encore belle, trouver là un officier qui s'est ouvertement déclaré l'amant de Camilla. Il est vrai que Tunbridge et le major ne lui avaient paru qu'une même chose, qu'il avait bien pensé que ce voyage n'avait pas d'autre objet que cet insipide major. Mais il n'imaginait pas qu'on y mit tant d'éclat et d'inconvenance. Il s'avouait à lui-même qu'il n'avait plus d'amour, mais il lui restait toujours de l'estime pour Camilla, et dans ce moment, cette estime était profondément blessée. Il lui devint impossible de lire. Tout ce qu'il put faire fut de prendre sa montre dans sa main et de compter les minutes que Camilla resterait. Il n'entendit aucun discours suivi. Il distingua seulement que la conversation était vive et animée. Ce fut lorsqu'il entendit rire Camilla qu'il poussa ce soupir, entendu et raillé par les interlocuteurs. Il en fut désagréablement averti lui-même par le silence momentané dont ce soupir fut suivi. Honteux de ses propres sentiments et surtout de s'être trahi, il s'observa davantage et se flatta qu'on ne saurait pas qu'il occupait cet appartement. Cependant, lorsque la société se retirait, un cri ayant frappé son oreille, quoiqu'il distingua bien que ce n'était pas la voix de Camilla, il ne put se contenir et sortit involontairement, une bougie à la main. Mais la dame dont il avait entendu le cri ne lui était nullement connue. Il vit Camilla donnant le bras au major, et il ne put voir autre chose. Il n'aperçut pas même Mistress Albery. Et quand elle le questionna, il ne trouva point de voix pour lui répondre, restant immobile dans la même situation, après qu'elles eurent descendu l'escalier, jusqu'à ce que les pas du général et du major, lorsqu'ils revinrent dans leur chambre, le retirèrent de sa stupeur et, le rendant un peu à lui-même, le mirent en état de rentrer chez lui. Alors, pleinement et cruellement convaincu de l'énergie de sa malheureuse passion, il passa toute la nuit dans les angoisses et tout le temps qu'il ne donna point au regret fut employé à chercher les moyens de se rétablir dans la tranquillité de l'indifférence. La confusion de Camilla lui persuada qu'elle avait cru se trouver dans son tort. Mais cela provenait-il de quelque chose qui tint au caractère du major ou de quelques circonstances pécuniaires qui s'opposaient à leur union? C'est ce qu'il ne pouvait décider. Contribuer à ce mariage, conformément à son premier plan, s'il pouvait se figurer que le major fût digne d'une pareille femme, lui paraissait toujours le meilleur moyen d'adoucir ses peines secrètes. Mais Camilla, malgré toutes ses inconséquences, était un trésor qu'il lui semblait difficile de mériter, et contribuer à lui donner un homme qui, probablement, n'aurait d'estime que pour sa beauté, paraissait à Edgar une action plus coupable que généreuse. Après bien des réflexions, il résolut de changer de système, de voir Camilla au lieu de l'éviter, pour mieux se familiariser avec ses défauts, jusqu'à ce qu'il cessât d'être enthousiaste de ses vertus et qu'il pût découvrir si les obstacles qui retardaient son union avec le major provenaient d'elle ou des autres, déterminé à leur donner plus de force dans le premier cas et dans le second à tâcher de les lever, quelque peine qu'il dût en ressentir. Ce plan, le seul qu'il put former, lui donna quelque soulagement et l'autorisait à rester où était Camilla. C'était une satisfaction pour son cœur. Il n'eut donc rien à objecter à ce projet. Camilla, en retournant au Mont Plaisant, ne put proférer une syllabe. Fâchée qu'Edgar eût pu la voir dans une pareille situation, quoiqu'elle ignorât comment cela était arrivé, elle éprouvait autant de crainte que de plaisir. Son cœur palpitait en songeant qu'elle venait de voir Edgar à Tunbridge et qu'elle l'avait entendu soupirer. Mais ce soupir était-il pour elle? Ne venait-il pas plutôt de quelques inquiétudes secrètes qui ne la regardaient point et qu'elle ne pouvait connaître? Il n'en était pas moins vrai qu'il était à Tunbridge et qu'ainsi elle pouvait se flatter d'entrer pour quelque chose dans le motif de son arrivée. Quant à la manière dont elle se conduirait avec lui, elle se détermina à suivre les instructions de son père, dont elle relisait régulièrement la lettre tous les matins. Mistress Alberi fut aussi silencieuse que Camilla. La présence inattendue de Mandelbert occupait toutes ses pensées. Cependant, quoiqu'elle eût des soupçons confus, elle ne crut pas définitivement qu'il aimât Camilla. Le soupir qu'il avait poussé semblait un soupir de fatigue plutôt que d'amour, et elle supposa que la vanité d'Edgar avait été confondue en voyant le major reconduire Camilla. Miss Dénel était donc la seule qui parla son chemin. Car maintenant bien éveillée, elle ne cessait de discourir sur les froids qu'elle avait eus. « J'ai pensé, disait-elle, quand je me suis laissée tomber, que quelqu'un m'avait poussée à dessein pour me tuer. Oh, ciel, j'ai cru que j'étais morte, que c'était un voleur, et quand j'ai vu la lumière, il m'a paru que je voyais un fantôme. Je n'ai jamais été aussi effrayée de ma vie. » Le lendemain, on alla, suivant la coutume, au Pentil. Mistress Alberi prit séance dans la boutique du libraire où se rendaient tous les élégants. Edgar y entra bientôt après, adressa quelques mots à Mistress Alberi et s'informa vaguement de la santé de Camilla. Ce fut un cruel contretemps pour les espérances de celle-ci de le voir d'abord en public. Mais la rencontre de Mistress Alberi à l'hôtel n'avait pas paru engageante à Edgar. Il soupçonnait cette dame de lui en vouloir depuis le déjeuner donné à Miss Dénel, et il désirait être encouragé à renouer avec elle. Quoique Sir Sedley, avec le recours d'un bâton, eût pu se rendre chez le libraire, il n'était pas encore assez bien pour monter à cheval. On proposa donc une partie en voiture pour la matinée, et l'on décida qu'on irait voir Knowle. Les équipages et les chevaux furent demandés. Tandis qu'on les attendait, Lady Alicia Selmore et une nombreuse suite de dames et de cavaliers entrèrent chez le libraire. Sir Sedley, perdant ses manières aisées et naturelles qui avaient fait tant de plaisir à Camilla, reprit son affectation, son apathie, ses distractions, et se renversa sur sa chaise, sans finir un discours qu'il avait commencé et sans donner la moindre attention à ce qu'on lui disait. Ses amis, Lord Newford et Sir Théophile Gérard, abordèrent familièrement Lady Alicia. Et Sir Sedley, s'imaginant que tout serait perdu pour lui s'il n'avait pas le même privilège, fit part à Lord Newford de ce qu'il appelait sa plus haute ambition, et celui-ci le présenta sur le champ. Il eut alors le suprême bonheur d'une légère conversation entrecoupée avec Lady Alicia, qui, par les mouvements de sa tête et quelques légers éclats de rire, donnait à tout ce qu'il disait l'air d'un bon mot, et se voyait régulièrement applaudi comme une actrice à chaque couplet. Il n'y avait pourtant rien d'admirable dans tout ce qu'elle daignait dire. Ce n'était ni bon ni mauvais, ni sage ni fou. C'était à proprement parler de ces choses indifférentes qui ne méritent ni applaudissements ni critiques. Cependant, le charme n'opéra pas seulement sur les auditeurs, elle crut elle-même qu'un certain esprit et une finesse particulière accompagnaient toutes ces phrases. Mistress Albury, après avoir écouté quelque temps, perdit patience, moins par mépris pour Milady que pour ses auditeurs. Tout le monde, excepté le fidèle général, l'avait abandonné. Le major même avait quitté la chaise de Camilla. Et Edgar, d'après le concours universel, s'imaginant qu'il y avait là quelque chose digne d'attention, s'était joint au groupe qu'on formait autour de Lady Alicia. « Nous sommes terriblement délaissés, général !» dit Mistress Albury à voix basse. « Que ferons-nous pour sauver nos réputations ?» Le général répondit en riant qu'il craignait bien qu'elles ne fussent perdues sans retour. « Mais, ajouta-t-il, je préfère une défaite avec vous à une victoire sans vous. » « Votre galanterie, mon cher général, répondit Mistress Albury avec une joie soudaine, sera récompensée. Suivez-moi de près et vous verrez changer la fortune de cette journée. » Alors elle se leva, s'approcha doucement et, avec l'air du respect, s'arrêta en face de Lady Alicia. Elle la regarda fixement comme si elle eût été dans l'admiration. Lady Alicia, qui d'abord avait considéré son approche comme une incivilité qui annonçait l'ignorance du grand monde, en jugea plus favorablement quand elle découvrit que son rare mérite en était l'objet. Elle crut cependant qu'il était au-dessous d'elle de parler quand on attendait ainsi ses paroles, jusqu'à ce que, voyant la patiente admiration avec laquelle on soupirait après un mot, elle voulut bien se montrer assez indulgente pour dire à Théophile Gérard, qui prétendait que depuis 5 ans on n'avait pas vu une aussi belle saison, « Je ne croyais pas, cher Théophile, que vous puissiez déjà compter par lustre. » Son air de complaisance annonça le bonheur de cette répartie. Le cercle applaudit suivant l'usage. Lord Newford fit un grand éclat de rire sans savoir pourquoi. Sir Théophile, après en avoir fait autant, désira, puisqu'il en était l'objet, de savoir ce qui avait été dit et courut à l'autre bout de la salle chercher, dans le dictionnaire des mots techniques, la signification du mot « lustre ». Mais ce triomphe ne fut pas de longue durée. Mistress Albury haussa légèrement les épaules, fit un sourire qui annonçait plutôt la pitié que la dérision, et donnant un coup d'œil au général, comme si elle eût eu quelque chose à lui communiquer, elle sortit de la boutique. Lady Alicia ne put s'empêcher de rougir. La confusion lui était d'autant plus pénible qu'elle n'y était pas accoutumée. Elle tourna et retourna ses gants, prit son mouchoir parfumé qu'elle porta plusieurs fois à son nez, s'étonna qu'il fût si tard, tira sa montre sans se souvenir de la regarder, et enfin s'émerveilla qu'il pût pleuvoir sans qu'on aperçût aucun nuage. Son embarras donna du poids au trait malicieux de Mistress Albury, qu'un peu de présence d'esprit eût aisément détourné. Ses admirateurs se retirèrent l'un après l'autre avec une estime moins prononcée pour ses talents. Et, se trouvant seule dans la boutique avec Théophile Gérard, elle lui demanda s'il connaissait cette femme singulière. Les mots de femme singulière indiquèrent suffisamment à Théophile ce qu'il devait répondre. « Non, dit-il, je l'ai vue quelquefois par hasard, mais elle n'est pas des nôtres. » Cette réponse fut très agréable à Lady Alicia, car elle avait entendu Lord Holurney témoigner son admiration pour Mistress Albury, ce qui l'avait rendue plus sensible à la scène qui venait de se passer. Elle eut reçu une grossièreté sans son émotion, mais le mépris avait en lui-même quelque chose d'insolent dont elle ne se croyait pas faite pour être l'objet. Lorsque Mistress Albury fut arrivée en riant au milieu des pentilles, elle trouva Edgar qui s'informait du temps et de la manière dont on prenait les eaux minérales. Camilla l'entendit aussi et en conçut des alarmes pour sa santé. Cependant, il ne paraissait point malade. Une autre inquiétude, non moins vive pour elle, fut de ne pouvoir pas espérer d'être l'objet de ses attentions le reste du jour. Mais l'égoïsme n'entrait pour rien dans ce regret. Lorsqu'elle vit, un moment après, Sir Sedley arriver en boitant et qu'elle l'entendit demander si son phaéton était prêt, elle s'approcha et lui dit « Pourrez-vous encore, Sir Sedley, vous risquer dans votre phaéton ?»« Je ne vois point de raison qui s'y oppose, » répondit-il, sensiblement flatté. « Cependant, je préférerais certainement d'aller avec vous. »« Puisqu'il en est ainsi, » dit Mistress Albury, « vous irez dans la voiture de M. Denel avec lui et ma petite nièce, et j'emmènerai le général dans votre phaéton. »« Volontiers, » dit Sir Sedley en s'asseyant sur un banc. Et, tirant quelques billets de sa poche, il ajouta, « J'aurai besoin de quelques guinées. » Ah, dit Mistress Albery, où prend-on ces billets ? Lady Alicia Selmore, répondit Sedley, a promis au maître des cérémonies du bal d'en distribuer une vingtaine et elle m'a chargé de l'aider. Combien vous en faut-il ?
Demandez à M. Denel, dit-elle négligemment, car c'est précisément lui qui maintenant tient la bourse.
M. Denel s'était éloigné. Mistress Albery, le prenant par le bras, lui dit
« Mon bon ami, combien faudra-t-il que Sir Sedley vous donne de billets ?»«
À moi, point du tout. »«
Oh, fille, tout le monde va chez le maître des cérémonies. Vous ne pouvez pas en prendre moins de 6. »«
6 ? Et que voulez-vous que j'en fasse ?»«
2 pour vous ou pour votre fille, et les 4 autres, vous les donnerez. »«
À qui ? »
Fit-on jamais une semblable question ?
Aux personnes auxquelles il sera le plus à propos, le plus convenable et le plus galant de les offrir.
Oh, ce sont des choses que je n'entends point, qui ne sont pas de mon ressort.
La proposition en fut demeurée là, si Mistress Albery ne s'était pas opiniâtrée.
Si vous êtes bon, ajouta-t-elle, je le serai aussi, et vous aurez un bon plat de roast beef pendant 15 jours.
M. Denel, un peu radouci, fit une grimace qui ressemblait à un sourire et tira 2 guinées. C'est tout ce qu'il fut possible d'en obtenir.
« Allons, dit Sir Sedley à Mistress Albery, voilà pour les autres. Et pour vous, ma belle. »«
Que vous êtes molestant! Ne savez-vous pas que je suis devenue avare ?»
Elle donna cependant sa guinée.
« J'espère, dit Sir Sedley, que la belle Tyrold n'aura pas adopté un si vilain caractère. »
Camilla avait beaucoup souffert pendant toute cette contestation. Elle dit en rougissant qu'elle ne songeait point à aller au bal.
Croyez-vous, dit Mistress Albery, que vous aurez toujours un danseur? Vous ne connaissez donc pas les règles de ce pays-ci? Le maître des cérémonies est toujours quelqu'un de très honnête et on lui montre tout le respect possible.
Camilla fut encore plus déconcertée et dit que le moins qu'elle pourrait aller au bal serait ce qui ferait le plus de plaisir à son père.
Votre père, ma chère, est un excellent homme et un bon prédicateur, mais que connaît-il aux usages de Tunbridge, moins que ma femme de chambre qui en a entendu parler à John. Votre père les ignore absolument. Il ne connaît Tunbridge que par quelques traités qu'il aura lus sur ses eaux minérales et qu'il est peut-être en état d'analyser aussi bien qu'un médecin. Mais pour l'ordre des danses et les règles à suivre à cet égard, soyez persuadé que vous ferez beaucoup mieux de vous en rapporter à Sir Sedley ou à moi. »
Camilla rit faiblement et fouilla dans sa poche pour tirer son mouchoir. Mistress Albery crut qu'elle cherchait sa bourse et l'arrêta en disant «
Non, non, si vous ne désirez point d'aller au bal, si cela ne vous plaît point, je ne veux pas que vous soyez forcé d'y aller, car je ne connais rien de plus détestable que de forcer les gens à s'ennuyer. Allons, partons pour Knowle. »
Sir Sedley allait remettre les billets dans sa poche, mais le major en prit un de sa main et le présenta à Camilla en disant
« Laissez les dames prendre leurs billets et nous nous arrangerons après. »
Camilla fut extrêmement piquée. Cependant, ne sachant comment refuser, elle prit le billet et, se tournant aussitôt vers Sir Sedley,
« Je suis votre débitrice d'une guinée, lui dit-elle, et c'est la moindre de mes dettes à votre égard. »
Après avoir dit ces paroles, elle résolut d'emprunter cette somme à Mistress Albery.
Sir Sedley commença de s'apercevoir qu'elle devenait plus aimable à chaque instant et, faisant trêve à son système d'inattention, dès qu'il entendit le bruit des voitures, il la conduisit lui-même au carrosse de M. Denel, où il monta aussi. Edgar, ne pouvant pas s'y placer, avait demandé son cheval, tandis qu'on était occupé des billets d'entrée. Les lords Olerney et Newford, ainsi que Théophile Gérard et le major Sherwood, allèrent aussi à cheval. Sir Sedley tâcha d'amuser Camilla pendant la route. Il s'égaya aux dépens du bavardage de Miss Denel et de l'esprit lourd et massif de son père, en y joignant de temps en temps quelques sarcasmes contre lui-même. Ses observations firent plaisir à Camilla, mais un objet plus intéressant pour elle, ce fut l'antique château, les peintures et les curiosités de Knowle, et le besoin de payer un tribut de goût et d'admiration aux ouvrages de Sir Josué Reynolds. Après avoir parcouru les appartements, on passa dans le parc, où l'on fut enchanté de la vue des arbres antiques et vénérables dont il est orné.
Tous les voyageurs goûtaient le plaisir de s'y promener lorsqu'ils découvrirent une femme élégante qui lisait sous un chêne. Camilla se rappela tout de suite sa belle liseuse au clair de la lune, et Sœur Théophile s'écria « Je crois que c'est la divine Burlington !»« Est-ce vrai ?» dit Lord Newford, et aussitôt il alla droit au chêne. Les autres, jugeant cette démarche incivile et indiscrète, s'arrêtèrent. La belle, profondément absorbée dans sa lecture, n'entendit le pas de sa seigneurie que lorsqu'il fut auprès d'elle. Alors, levant les yeux, elle poussa un cri, laissa tomber son livre et prit sa course dans les bois avec la plus grande rapidité, sans savoir où elle allait. Assurée par cette fuite que c'était sa nouvelle amie, Camilla sentit la plus vive indignation contre Lord Newford et ne put s'empêcher de la manifester. Il était évident que la belle fugitive, n'ayant vu que lui de toute la compagnie, s'était hâtée de l'éviter. Quand il en fut certain lui-même, il cessa sa poursuite. Il parut aussi qu'il en était honteux, quoiqu'il cherchât à déguiser sa confusion par différents mouvements, tels que de regarder en l'air, de jouer avec sa canne, de tirer son mouchoir. Camilla n'avait d'autre moyen de joindre la belle fugitive que de lui crier de s'arrêter, ce qu'elle fit aussitôt qu'elle entendit le son de sa voix. Et, se retournant avec l'air du ravissement, elle vola dans ses bras. Le major, qui s'était constitué l'écuyer de Camilla, courut après elle. Edgar, qui lui enviait ce droit, en conclut qu'il était la preuve de son bonheur. Il regardait dans un silence d'étonnement. Mais en même temps, il écoutait les observations de Mistress Arbery, qui ne doutait plus, en ce moment, que ce ne fût la belle inconnue que Miss Tyrold avait rencontrée en route, et elle fit aussitôt le récit de cette aventure. Edgar apprit avec beaucoup de plaisir le courage bienveillant que Camilla avait manifesté dans cette occasion, et il fut saisi de terreur en songeant au danger auquel il avait exposé. Mais Lord Olerney dit avec l'air de la surprise « Est-il croyable que Lord Newford ait pu causer la moindre alarme à Mistress Burlington ?»« Est-ce donc une femme de caractère ?» dit Mistress Albery. « Sans tâche, répondit solennellement le Lord. Je la crois aussi pure que sa beauté. Si vous l'aviez vue, vous conviendriez que ce n'est pas un petit éloge. Elle appartient à une famille très respectable du pays de Galles. Il n'y a que quelques mois qu'elle est avec son mari. » « Son mari, milord, j'ai cru qu'elle était demoiselle. » « Non, la pauvre malheureuse a été conduite de chez sa nourrice à l'hôtel, et je crains bien que cela n'ait pas été pour son plus grand bonheur. »« Si elle, dit Miss Enel, elle n'est pas heureuse ?»« Je ne me permets jamais de juger, dit le lord en souriant. Mais ses traits offrent toujours, je ne sais quelle expression, de tristesse et de mélancolie. » « Et je vous prie, quel âge a-t-elle ? » dit Miss Enel. « 18 ans. Et elle est mariée ? Je ne puis concevoir ce qui la rend malheureuse. » « Ce n'est pas son mari, sans doute, dit Mistress Albery en riant. Ce serait contre toute probabilité. » « Eh bien, quand je me marierai, je suis très décidée à ne pas être malheureuse. » « Et comment vous y prendrez-vous ? » « Oh, je crois que cela ne sera pas bien difficile quand une fois je serai mariée. » « Ce sera du moins assez extraordinaire, » répondit Mistress Albery. Camilla, en ce moment, rejoignit la société après avoir conduit cette nouvelle amie à la porte du parc où sa voiture l'attendait. « Enfin, ma chère, » dit Mistress Albery, « j'espère que votre beauté mystérieuse se sera fait connaître. » « Je n'ai point fait de questions, » répondit Camilla en baissant péniblement les yeux. « Je puis donc vous dire qui elle est ?» dit Miss Enel. « Elle s'appelle Mistress Burlington. Elle est du pays de Galles, elle est mariée et n'a que 18 ans. »« Mariée ?» reprit Camilla en rougissant au souvenir des entretiens qu'elle avait eus avec elle. « Oui, votre belle inconnue n'est ni plus ni moins, dit Mistress Albery, que l'honorable Mistress Burlington, femme du frère de Lord Burlington, et presque la rivale en goût et en adoration de Lady Alicia Selmore. » Camilla, qui l'avait vue et considérée sous un tout autre point de vue, apprit ces détails avec moins de plaisir que de surprise, lorsque de nouveaux renseignements donnés par Lord Olerney eurent appris qu'elle s'appelait Melmont de son nom de famille. « Oh, je ne suis plus étonnée, » dit Mistress Albery. « Je connais les Melmont. Ils ont tous l'esprit romanesque et sentimental. L'un d'eux était l'été dernier dans le Hampshire. Il était tellement mélancolique et langoureux que je ne voulus jamais l'admettre dans ma société.
C'était, je n'en doute pas, le frère de cette jeune dame, dit le lord Olerney. C'est un jeune homme d'un excellent caractère, mais extrême dans ses affections.
Quand me présenterez-vous cette nouvelle amie ? Dit Mistress Albury à Camilla.
Ou plutôt, se tournant vers lord Newford.
J'espère que votre seigneurie me fera cet honneur, car on m'a dit que vous étiez très bien avec elle et que vous preniez grand soin de la convaincre des mauvais effets et de tous les dangers des promenades du soir.
Malédiction, dit sa seigneurie, pourquoi diable aussi une femme va-t-elle se promener au clair de la lune?
Pourquoi plutôt, dit lord Olerney, un homme voudrait-il empêcher une récréation aussi naturelle?
L'âge de lord Olerney, qui était du double de celui de lord Newford, autorisait cette question et même exigeait une réponse.
J'avoue, mylord, dit lord Newford, que mon intention n'était que de voir une lettre que j'imaginais propre à exciter la curiosité de tout le monde.
Mais vous vous mîtes à ses genoux, dit Miss Enel, je vous vis à ses pieds. Pourquoi vous y mettiez-vous, puisque vous saviez qu'elle était mariée et que vous ne pouviez pas être son amant?
La société se trouvant alors disposée à s'en retourner, Mistress Albury appela le général.
Camilla, impatiente de payer Sir Sedley, le suivit pour lui parler, mais sans faire attention à ce qu'elle lui disait, Mistress Albury s'enfuit en riant et en criant
« Venez, général, allons-nous-en, afin d'arriver les premiers et que Denel soit obligé de payer les étrennes. Ce sera une bonne guinée d'épargner pour mon phaéton. »